J'aimerais parler sur l'onction de David. Dans 1 Samuel chapitre 16 et au verset 6, il est écrit « Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Éliab, donc il s'agit de Samuel, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shamma et Samuel dit « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, bethléémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Nous vivons aujourd'hui une époque où les développements de la haute technologie avancent à toute vitesse. On voit non seulement les progrès de l'Internet, mais avec toutes les nouvelles technologies qui se greffent, l'intelligence artificielle. Et on sait aujourd'hui qu'on est informé dans le monde entier de tout ce qui se passe avec la rapidité de l'information. Mais plus que jamais, nous qui sommes chrétiens, nous devons rechercher dans la communion avec Dieu et dans sa présence une relation plus intense avec le Saint-Esprit, plus que dans les technologies et les choses de ce monde. Développer une relation avec le Saint-Esprit nécessite de mettre de côté ces choses, les choses de la terre, et de se concentrer sur les choses de Dieu. Il y a donc un effort à faire pour se détacher du monde et de sa pensée et de s'attacher aux choses d'en haut et à celles qui sont véritablement spirituelles. Ici, nous avons l'exemple d'un roi qui s'appelait Saül, qui était un roi qui avait été choisi par Dieu lorsqu'il était humble et qu'il se considérait comme petit. Mais voilà que les années ont passé, qu'il est tombé dans l'orgueil et qu'il n'en a fait qu'à sa tête, il a désobéi à Dieu. Et finalement, Dieu l'a rejeté. Et Samuel, qui était le prophète en place à l'époque, pleurait devant Dieu parce que Saül avait été rejeté. C'est dans 1 Samuel 16, verset 1. Et Dieu reprend le prophète en lui disant « Mais quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Dieu avait laissé donc plusieurs chances à cet homme Saül. Il lui avait tendu la main. À plusieurs reprises, il attendait sa repentance, il attendait un changement d'attitude, un retour à Dieu qui n'est jamais venu. Donc, c'était terminé. Il y a un temps où Dieu tend la main, fait grâce, et puis si la personne s'entête, eh bien, elle s'égare, elle se perd. Et ça ne servait plus à rien de pleurer sur Saül. Dieu avait choisi maintenant quelqu'un d'autre. Donc, c'est inutile, entre guillemets, c'est ce que dit Dieu à Samuel, c'est inutile de chercher à suivre quelqu'un qui désobéit à Dieu, parce que Saül était quand même le leader, il était quand même le représentant de Dieu, il représentait la pensée de Dieu, il était loin de l'Éternel, celui qu'on devait suivre. Mais Dieu lui dit, c'est fini, ne suivez plus cet homme, j'ai choisi un nouveau roi à sa place. Et Dieu a un plan pour chacun, chacun doit être à sa place. Paul, dans le Nouveau Testament, compare l'Église à un corps, le corps de Christ, et dans un corps, il y a des membres. Et évidemment, chaque membre doit être à la bonne place et se soumettre à la tête. Parce que si les membres sont désordonnés, s'ils ne se soumettent pas, eh bien le corps entier va être déséquilibré. Si une jambe part d'un côté, l'autre jambe de l'autre, un bras en arrière, un bras en avant, on est désarticulé et on ne peut pas être en équilibre. Le premier point, c'est le choix de Samuel, Samuel qui est le prophète, donc un homme de Dieu qui vient chez Isaïe, il a déjà cette directive, tu vas chez Isaïe, lui dit Dieu, et là je te montrerai celui que j'ai choisi pour roi. Il entend Dieu lui parler, contrairement à d'autres croyants de l'époque, comme le sacrificateur Élie qui était avant lui, qui par sa nonchalance dans l'éducation de ses enfants s'était éloigné de Dieu, il n'entendait plus la voix de Dieu, et c'est par le jeune Samuel qu'à nouveau Élie va entendre la voix de Dieu. Donc Samuel est proche de Dieu, il est en communion avec Dieu, il entend les révélations du Seigneur. Mais notez bien que vous pouvez aimer le Seigneur, avoir une bonne relation avec Dieu, et vous pouvez faire un mauvais choix. Il était sur le point de se tromper dans son choix, et heureusement que Dieu l'a rectifié au dernier moment, parce qu'il allait choisir la mauvaise personne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'est fié à ses yeux pour faire son choix. Il s'est fié à sa propre chair, à ses propres sentiments, en voyant Éliab. Il a dit certainement, c'est celui-là que Dieu a choisi. Donc il se fiait davantage à ses impressions et peut-être son expérience de prophète, son expérience qu'il avait acquise au cours des années, eh bien, il s'avançait avec sa nature humaine. Et ça nous montre que même un croyant qui a une bonne relation avec Dieu, par sa nature humaine, nous pouvons faire de mauvais choix s'ils ne sont pas conduits par Dieu. D'autres croyants ont fait de mauvais choix, comme Lot. Lorsqu'il a vu les villes de Sodome et Gomorre, il a vu comme un jardin de délices comme le jardin d'Éden, il a vu la chose bonne, mais c'était un mauvais choix. En se rapprochant de ces villes, il a perdu sa famille. Acan, un autre exemple d'un croyant qui a fait un mauvais choix, il savait qu'il fallait dévouer par interdit toutes les choses lors de la conquête du pays de Canaan, et il avait vu cet or et ses vêtements, et il avait vu de bonnes choses là, et il s'est dit, je vais les garder pour moi. C'était un mauvais choix. Ça paraissait bon, mais Dieu avait dit, il faut le dévouer, il faut le détruire. C'est un mauvais choix. Et pourtant, c'était un croyant. Ésaü était un croyant, il a fait ses mauvais choix. Il a choisi de se marier avec des femmes cananéennes, chose que ses parents réprouvaient, mais il a fait ce choix, parce qu'il les trouvait belles, parce qu'il avait sympathisé avec elles, parce que voilà, il avait laissé ses sentiments le conduire dans cette direction. C'était un mauvais choix. Donc, vous pouvez très bien être chrétien, avoir une relation avec Dieu, mais si vous faites des choix par votre propre nature humaine, par la vue, exactement comme Samuel au verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui, eh bien, vous pouvez faire le même type de choix, le même type d'erreur, et les conséquences vous poursuivront toute votre vie. Vous pouvez amener le chaos dans votre famille, vous pouvez faire le choix qui vous paraît une bonne affaire, et finalement, ça va se retourner contre vous parce que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Et Samuel, il sort sa corne d'huile et il allait oindre Éliab, le fils aîné. Mais comme il avait cette relation avec Dieu, Dieu l'arrête avant qu'il ne fasse l'erreur. Il était donc sur le point de faire cette erreur, mais ce qu'il a gardé, c'est cet entretien régulier avec le Seigneur. Et c'est ça qu'il nous faut, frères et sœurs, avoir une relation quotidienne avec Dieu. Pour que lorsque nous faisons le mauvais choix ou que nous prenons la mauvaise direction, nous ayons une alerte intérieure pour nous dire « Attention, attention, ce n'est pas la bonne direction. » Et cette alerte intérieure, elle vient parce qu'il y a une relation régulière avec Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Samuel. Il était sensible au Saint-Esprit et il avait développé un esprit de prière. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 17, « Priez sans cesse », ce qui signifie « développer un esprit de prière ». Ça veut dire qu'on ne peut pas rester toute la journée en prière, les yeux fermés, dans un coin, et tout, sans cesse, ça voudrait dire tout le temps, non. On peut avoir des activités, on peut sortir, mais avoir un esprit tourné vers Dieu et être à l'écoute du Saint-Esprit. Alors Dieu lui dit non. Dieu lui dit arrête. Peut-être en lui-même, il peut se dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Non, il sent que c'est la parole de Dieu. Il y a un piège à regarder aux apparences. Dieu lui dit, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille. C'est ce que Samuel avait regardé en premier, c'est ce que nous regardons en premier. Nous regardons l'apparence. Ah, celui-ci, on peut lui faire confiance. Ou celle-ci, voilà, elle travaille bien, on peut lui faire confiance. On regarde à l'apparence. Elle présente bien. Mais Dieu regarde au cœur. Là où nous ne pouvons pas voir, il y a des choses secrètes, il y a des choses cachées. Il y avait peut-être de l'orgueil dans le cœur d'Éliab que Samuel ne voyait pas. Et c'est pourquoi nous devons développer une oreille qui entend les sons de Dieu. Les sons de Dieu. Dieu veut nous parler, mais si nous sommes affairés, toujours à chercher par nous-mêmes, nous n'écoutons pas le Seigneur et nous sommes comme Samuel qui allait faire ce mauvais choix. Pour les autres fils d'Isaïe, Samuel a compris la leçon et il demande à Dieu à chaque fois, « Seigneur, est-ce lui ?» Non, le Seigneur lui répond, « Ce n'est pas lui. » Donc il prie pour recevoir les directives et tous les fils, un par un, passent devant lui. Et c'est bien de prendre le temps de consulter Dieu, de prier avant de nous engager quelque part. Surtout qu'il avait une promesse, on l'a lu, c'est que Dieu lui avait dit, c'est dans cette famille, la famille d'Isaïe, que tu trouveras le prochain roi d'Israël. Mais la difficulté à laquelle Samuel est confronté, c'est que tous les fils présents sont passés devant lui et Dieu a dit non pour chacun d'entre eux. Et là, il pourrait se poser la question, mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que peut-être j'ai manqué un des fils? Et il a la bonne question, et c'est là où on voit que quand on est en communion avec Dieu, bien, on va faire jaillir une solution qui n'existait pas à ce moment-là, puisque David n'était pas présent. David n'était pas présent, et Samuel ne savait même pas qu'il y avait encore un autre fils qui n'était pas là. Et il demande à Samuel, voyez, quand vous êtes en communion avec Dieu, vous avez une parole inspirée, peut-être une question qui va débloquer une situation, puisque là, on était sans issue. En réalité, c'était un vrai problème. Dieu avait donné une parole, il fallait trouver le futur roi. Tous les fils étaient passés. Dieu avait dit non à chacun d'entre eux. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Il y avait comme un blocage. Et pour sortir de ce blocage, Samuel demande à Isaïe, mais sont-ce là tous tes fils ? Un petit détail, mais voyez, en fait, la Bible, il n'y a rien qui est au hasard dans la parole de Dieu. Chaque verset a son importance. Il y a un verset qui dit que Samuel avait demandé à Isaïe de faire venir tous ses fils. Tous ses fils. Pas la plupart de ses fils, mais tous ses fils. Et ça nous donne une leçon que lorsque nous obéissons en partie, même à 98%, 99%, on n'obéit qu'en partie, on pense que ça va être bon comme ça, mais il manque la partie que Dieu avait demandée. Dieu avait dit tous ses fils, parce qu'il y avait une raison. Il fallait que David soit présent. Eh bien, nous devons apprendre à obéir, même dans les détails. Parce que pour Dieu, chaque détail a son importance. Et certainement que pour le père de David, ce n'était pas important. Mais ce qui n'était pas important pour lui était important pour Dieu. Et souvent, ce qui est important pour Dieu, nous le négligeons. Nous passons par-dessus. Nous pensons que Dieu va bien faire avec les autres. Justement, Eliab était bien placé, donc il avait des bonnes chances d'être choisi. Donc David, non, le père n'y croyait pas. Ce n'est pas à nous de décider qui Dieu va mettre en place ou qui Dieu va rejeter. C'est plutôt à nous d'être sensibles à sa voix et de chercher sa face. Ça, c'était le premier point. Donc, on voit le choix de Samuel qui a été rattrapé par Dieu pour l'amener dans la bonne direction. Que le Seigneur nous aide quand nous sommes face à des choix pour ne pas nous tromper. Et si nous nous orientons vers la mauvaise direction, bien soyons sensibles à cette petite voix où le Saint-Esprit nous dit non, ce n'est pas la bonne direction. Deuxième point, c'est maintenant le choix de Dieu qui se confirme sur David. Car David, lui, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que David ne pouvait rien faire pour être choisi. Il ne pouvait rien faire. Il avait eu les consignes de son père, tu te tiens à l'écart, tu gardes les brebis. Il ne pouvait même pas rencontrer Samuel. Donc, il y avait une réunion importante. Il n'était pas là. Et il n'allait pas s'imposer. Il ne pouvait pas forcer les choses. Il ne pouvait pas tenir tête à son père, par exemple, se rebeller contre son père et dire non, j'irai quand même à cette réunion. Donc, il s'est soumis à son père, quelque part, à son désavantage, puisqu'il aurait bien aimé lui faire partie de cette réunion où on allait choisir le futur roi d'Israël. Certainement qu'il aurait aimé être présent, mais il s'est soumis à son père, à son désavantage. Et ça, ça nous parle de la soumission. Parfois à notre désavantage, mais rassurez-vous, Dieu peut faire tourner le mal en bien. Il a ses secrets, il a ses moyens d'action. Et c'est en fait Isaïe, remarquez la leçon pour Isaïe, Isaïe, ce père désobéissant, qui n'avait pas écouté Samuel sur tous les fils, il avait donc mis un de côté, eh bien, c'est à Isaïe qu'il demande, tu vas faire venir David. Donc, c'est celui qui avait fait l'erreur qui va maintenant rectifier son erreur. Et David, lui qui vivait cette injustice, puisqu'il se trouvait à l'écart, a gardé les brebis de son père, il aurait pu se plaindre, il aurait pu être amer, il aurait pu en vouloir à Dieu. Pourquoi Dieu, tu as permis cette situation? Et comme parfois nous nous plaignons parce que nous vivons une situation injuste, on les a mis de côté, peut-être on vous a oublié, ou alors ils ont fait la réunion sans vous, peut-être le comité directeur, ils ont convoqué et puis vous n'avez pas été convoqué, vous avez été mis de côté, abandonné, ou peut-être on vous a éjecté d'une place au travail, pour vous dire, on la donne à un autre. Mais en tout cas, si les hommes vont vous oublier, en tout cas Dieu, lui, il ne nous oublie jamais. Psaume 56, verset 12. « Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? » Nous avons le Seigneur. Nous vivons des situations injustes, mais Dieu se sert de ces situations pour nous amener là où il veut. Et David, qui était très serviable, faisait exactement ce que son père lui disait. Il était donc soumis. Dans un sens, il avait raison, puisque la Bible recommande aux enfants de se soumettre à leurs parents, donc ce qu'il fait est bien. Il faisait consciencieusement son travail, donc en gardant les brebis de son père, même si personne ne le voyait. Et c'est là, dans le secret, en fait, qu'il a développé une relation plus profonde avec Dieu que ses frères. Et Jésus parle du lieu secret, et c'est un lieu que chacun doit trouver. Matthieu 6, 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On peut dire que David a vécu le retour sur investissement. Il a passé du temps dans ce lieu secret, à l'écart, personne ne le voyait, mais il était en communion avec Dieu. Il a développé une relation forte avec Dieu dans la louange. C'est lui qui jouait de la musique. Parce que pendant ce temps, il développait aussi ses dons pour la musique, pour le chant. Et son père, ton père qui voit dans le secret, il voit ton cœur, il voit ta passion, il voit ton désir, ton zèle, il te le rendra. C'est ce que David a vécu. Et toute personne qui obtient des victoires et qui a des succès pour Dieu, il y a un moment où il passe du temps dans le lieu secret. C'est le temps de la préparation, c'est le temps de la méditation, c'est le temps où il s'entraîne. Alors il s'entraîne à la harpe, mais il s'entraîne aussi à la fronde. On le sait avec le combat contre Goliath. Il s'entraîne contre l'ours, contre le lion, contre les animaux féroces. Tout cela va lui être utile par la suite. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une école de préparation dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui vous prépare à ce que Dieu veut pour vous demain. On ne le sait pas, on ne le comprend pas, on fait les choses, peut-être c'est des obstacles, c'est difficile, mais Dieu nous prépare à quelque chose. Personne ne sait ce que fait David, mais en tout cas, Dieu le voit. Dieu voit chacun de nos cœurs. À l'église de Philadelphie, Dieu dit, c'est dans Apocalypse 3, 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ça, c'était pour David. C'est Dieu qui lui a ouvert la porte. Les hommes ont voulu l'enfermer. Tu ne viendras pas à la réunion. Tu garderas les brebis. Mais Dieu lui a ouvert une porte. Et cette porte, personne ne peut la fermer. C'est la porte de Dieu. C'est ce qui a permis à David de se retrouver là où Dieu le voulait. Même si certains vous ont mis de côté, vous avez été rejetés, même si vos parents vous abandonnent, Dieu veille sur vous. Psaume 27, 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent. » C'est David qui écrit. « Mais l'Éternel me recueillera. » Il a trouvé dans la présence de Dieu tout ce dont il a besoin. Peut-être qu'il a manqué de l'amour de ses parents. Il a ressenti le rejet de son père. Il a ressenti l'abandon de sa mère. Son père qu'il a mis de côté. Mais en tout cas, il a trouvé en l'Éternel la consolation, la paix du cœur. Les blessures de son cœur ont été restaurées dans la présence du Seigneur. Même dans un temps de rejet, nous pouvons développer un cœur pour le Seigneur. Et voyez, ces temps de mise à l'écart, ces temps peut-être de rejet, vous n'étiez pas à la réunion, eh bien, ce sont des tests. Ce sont des tests que Dieu permet pour travailler notre caractère, travailler notre humilité, et surtout, ne tombons pas dans le piège de la vengeance, de l'amertume, de la colère, de la haine. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Gardons notre cœur dans la foi, dans la louange, dans la reconnaissance. C'est ce qui va nous garder dans la paix de Dieu, alors qu'on vit une injustice. C'était le cas de David. Donc Dieu l'a convoqué finalement directement, et dès que Samuel a vu David entrer, il a eu la parole de Dieu dans son cœur, c'est lui. Au moins, c'était clair, il n'y avait pas de doute, c'était le plus jeune, c'est lui qui a été oint, et ça a suscité l'irritation, la jalousie de ses frères aînés. Vous voyez, quand on ne comprend pas la pensée de Dieu, on va être jaloux, pourquoi lui et pas moi? Ça, c'est la chair, c'est la jalousie. La plupart des problèmes dans les églises, les conflits, les querelles, les difficultés, ça vient de la chair. La chair qui n'est pas crucifiée, on raisonne comme le monde, on est jaloux, on ne comprend pas le plan de Dieu. Voilà. Et les frères vont être jaloux de David, alors qu'il y a la bénédiction de David, au lieu de le soutenir, au lieu de l'encourager, au lieu de se mettre à son service, parce que c'est lui maintenant qui va être le roi, eh bien, il le dénigre et il le rejette. Le troisième point, c'est maintenant les conséquences de l'onction dans la vie de David. Car David n'était pas simplement un joueur de harpe, il jouait avec l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque Saül était agité par un mauvais esprit qui venait sur lui, rien ne l'apaisait. Et contre les mauvais esprits, vous ne pouvez rien faire sur le plan médical. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de cure qui peuvent vous délivrer de cela, il n'y a pas de traitement psychologique. C'est un problème spirituel. Quand il y a un problème spirituel, il faut une solution spirituelle. Beaucoup, encore aujourd'hui, sont tourmentés. Il y a des mauvais esprits. Ça existe encore. Ils agitent beaucoup de monde. Devons veiller sur notre cœur pour ne pas laisser une porte ouverte à toutes ces mauvaises puissances qui agissent et qui ont réussi à trouver un accès dans Saül. Bien qu'il était croyant, il était agité par ce mauvais esprit. Pourquoi ? Parce qu'il avait ouvert son cœur à la désobéissance, à faire le mal, à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et si encore aujourd'hui on nourrit son esprit avec des films de violence, avec des images impures et tout ce qui circule encore sur le net, eh bien, nous ouvrons des portes à des puissances impures qui nous lient. Pourquoi certains ont-ils une vie intérieure si pauvre ? Parce qu'ils n'ont pas fait le choix de nourrir leur âme de la parole de Dieu et de se tenir dans la louange. On voit vraiment le contraste entre le roi Saül, le roi sur le déclin, le roi désobéissant, le roi qui a ouvert des portes à des mauvais esprits, et de l'autre côté David qui a fait le choix inverse, l'obéissance à Dieu, la foi, la reconnaissance, les psaumes de David, des louanges, de l'adoration. Psaume 63, verset 7, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Voilà une clé pour avoir une communion avec Dieu. Psaume 119, 148, « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Ça, c'est David. C'est la vie de David. Il se consacre à Dieu, il passe du temps dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, peu de chrétiens saisissent l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Il faut prendre le temps, il faut faire un effort, il faut lire la Bible, la méditer, c'est un petit travail, et on n'aime pas les efforts. Et on dit « Dieu bénira ». Pierre demande de prendre des résolutions dans 1 Pierre 2, 11. Il dit « Bien-aimé », il s'adresse à des croyants, « Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il y a donc des positions à prendre, il y a des choses à rejeter, il y a des choses qui sont néfastes pour nous. La Bible nous encourage à garder notre cœur pur. Nous sommes un temple, le temple du Saint-Esprit, 1 Pierre 1, 15. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Il y a un prix à payer pour combattre la chair et ses désirs. La chair va s'opposer à ses désirs. Par exemple, vous prenez la décision de jeûner. Eh bien, la chair ne va pas apprécier cette décision. Elle va réclamer son dû. Elle va réclamer sa nourriture. Il y a un combat contre la chair. C'est plus naturel de manger que de jeûner. Surtout que quand vous jeûnez, vous prenez une position spirituelle. Donc ça enclenche une opposition qui dit non. Non, tu es trop fatigué, tu ne vas pas jeûner. Il y a comme une réaction, comme une opposition. Donc il y a un prix à payer. C'est pourquoi il dit les convoitises qui font la guerre à l'âme. Il y a un combat à mener. David l'a fait malgré son jeune âge. Il respectait Saül. Il a toujours respecté Saül. Ça, c'est une caractéristique de David. Il appelait Saül « loin de l'Éternel ». Et dès son jeune âge, il a donné un bon témoignage. Dieu lui a donné des talents au niveau de la musique et il a fait fructifier, il avait l'onction. Certains ont des dons et des talents, mais ils ne les utilisent pas. Ils les mettent sous la terre, ils mettent un drap dessus, puis voilà, ils oublient. Or, David, il a mis au service de Dieu ses dons et ses talents. Il jouait de la musique, il se perfectionnait. Et sa communion avec Dieu lui donnait cette onction quand il jouait. Et c'est ça qui éloignait le mauvais esprit. Quand vous avez l'onction, l'atmosphère spirituelle devient bon. Les mauvais esprits partent. Et Saül était apaisé. Sur Saül, il y avait une atmosphère chargée de puissance mauvaise. Il était sous la domination d'un esprit qui l'agitait. Il n'était pas bien, il était angoissé, il était mal dans sa peau. Il y avait une atmosphère spirituellement mauvaise. La Bible parle bien du prince de la puissance de l'air. Il est capable de mettre une atmosphère chargée, une atmosphère d'oppression. Mais quand vous avez l'onction, quand le Saint-Esprit est sur vous, c'est une atmosphère de paix. C'est l'atmosphère de Dieu. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous portez l'onction avec vous. Par exemple, lorsque Pierre est invité chez Corneille, il était rempli du Saint-Esprit. Corneille était un païen, il y avait sa famille qui était là. Et lorsque Pierre annonce la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend sur l'auditoire. L'onction de Dieu était là. Et les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a des conversions, il y a des délivrances. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'onction. Et quand on a très peu de relations avec le Saint-Esprit, on a une atmosphère de soucis, une atmosphère d'angoisse, une atmosphère de crainte. On devient même anxiogène, on a une mauvaise atmosphère. Ça devient lourd. Et quand vous êtes dans ce type de comportement, eh bien, il y a un combat à livrer. Mais si vous venez au pied du Seigneur, vous recevez son onction et sa paix, son esprit, eh bien c'est une autre atmosphère, c'est une atmosphère de paix. C'est ce que David avait, il était loin du Saint-Esprit. En conclusion donc, je crois que comme David aujourd'hui encore, nous avons besoin de vivre une relation profonde avec le Saint-Esprit, être davantage centré sur les choses de Dieu, sur sa parole, sur sa pensée. Peut-être vous pensez, oh, moi je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez parfait, Dieu ne peut pas m'utiliser. Mais David n'était pas si parfait que cela, il avait aussi des failles, il avait des carences. Mais malgré tout, il revenait toujours au Seigneur et il cherchait Dieu de tout son cœur. Il avait un cœur pour Dieu. Eh bien, à chacun de placer son cœur devant le Seigneur et que Dieu nous fasse grâce, nous remplisse de son esprit pour faire ses œuvres et accomplir sa volonté. Merci encore pour ta parole, merci pour cet exemple de ce jeune que tu as choisi pour ton service, que tu as utilisé, que tu as placé au bon endroit alors qu'il avait été rejeté, méprisé, mis de côté, mais tu as permis que malgré ce qu'Isaïe avait fait pour son fils, ce rejet qui l'avait écarté, tu as permis qu'il soit quand même au bon endroit, au bon moment. Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle des situations bloquées. C'est toi qui interviens par ta main puissante, Seigneur, pour faire jaillir la solution, comme tu l'as fait jaillir de la bouche même du prophète Samuel, lorsqu'il a dit « Sont cela tous tes fils ?» Il a trouvé la clé pour sortir de cette situation bloquée. Eh bien, Seigneur, tu nous inspires la bonne parole, la bonne pensée qui vient d'en haut. Tu nous conduis, Seigneur, dans ces lieux que tu as prévus pour nous. Tu nous diriges dans les sentiers de ta bénédiction, de ta grâce. Merci de nous accorder ton esprit, de nous renouveler dans ce feu pour ta parole, pour la prière, Seigneur. Tu vois combien il y a un combat contre cette chair qui ne veut pas jeûner, qui ne veut pas prier, qui rejette même la parole de Dieu. Et nous te prions pour que l'esprit triomphe de la chair et que la chair soit crucifiée au nom de Jésus, afin que nous soyons des chrétiens malléables entre tes mains, des serviteurs utiles dans ton œuvre. C'est toi qui façonnes des vases avec la matière que nous avons, Seigneur. Tu nous destine à tel ou tel usage, c'est toi qui établis, c'est toi qui as choisi David pour cette fonction. Et nous voulons simplement reconnaître ton choix et, Seigneur, nous soumettre à tes directives. Merci de bénir chaque cœur ce soir encore et de nous garder dans ta paix dans le nom de Jésus. Amen. Nous nous attendons à la grâce de Dieu. Je vous donne quelques nouvelles de Magali qui va mieux et il est prévu qu'elle sorte demain de l'oncopole, donc merci Seigneur, on continue à prier pour elle pour que Dieu la bénisse. Donc on prie aussi pour Andriana qui est là avec nous ce soir, hein, que Dieu la fortifie. Continue à prier pour Bernadette qui est toujours hospitalisée à Purpan suite à une vertèbre qui s'est fracturée. Je ne sais pas s'il y avait un autre sujet de prière que vous vouliez évoquer. Sinon, il y a aussi dimanche le parcours Alpha, des nouvelles personnes que vous connaissez. J'en ai mentionné Florence Munoz qui n'avait pas pu venir dimanche d'avant, doit venir normalement là. Il y a aussi Elodie, Patrick, Thomas, c'est un jeune qui a été invité. Voilà, plusieurs personnes, que Dieu fasse un travail dans leur cœur pour les anciens, le groupe de louanges, le GIB, les différents services de l'Église, le conseil d'administration, tous ceux qui sont en direction. Et à moins qu'il y ait un autre sujet, sinon on va prier. Pas d'autre sujet particulier. Voilà, que plusieurs élèvent la voix et on s'attend à la grâce de Dieu. Et frères et sœurs, on est dans une soirée de prière et vraiment prenez votre place dans la prière. Prenez à cœur de prier, d'élever la voix. C'est très bien de prier dans son cœur, hein, gloire à Dieu, et c'est bien. Mais c'est bien aussi d'élever la voix pour qu'on s'associe avec vous dans la prière et qu'on puisse dire Amen à votre prière. Que le plus grand nombre puisse élever la voix encore ce soir pour prier le Seigneur.